Hey Daniel, t'as entendu ce matin aux infos sur France Inter comment il s'appelle notre ami Copé qui dit « Il faut qu'on se bouge ». Ça y est, il déménage. Bah si, quoi, il déménage. Ah non, c'est pour la campagne, pour le oui et pour le non. Et il voudrait qu'on vote oui. Avec des menteurs comme ça, comme porte-parole, le oui va descendre en dessous de 20%. Allez, salut Daniel, c'était Bernard.
Oui, Philippe à Strasbourg, bien voilà, Jacques Lang a réuni son comité de soutien pour le oui. Comme dit Briali, tous ses amis étaient là, Emmanuel Béard, DHL, Georges Fambrun, voilà. Eh bien, ça montre qu'au Parti Socialiste, la cause du people a remplacé la cause du peuple.
Je suis excédée par la campagne de mépris qui se lance sur les ondes, là, pour dire que les Français qui votent non, c'est forcément des cons, des gens qui n'ont rien compris. Alors hier, on a eu l'ambassadeur de Pologne qui a dit que « Oh, la directive Wolkenstein, oh, c'est pas si grave que ça, tout va bien, en Pologne, ils ont des droits sociaux vachement développés. » Et puis alors aujourd'hui, c'est Roselyne Bachelot, dis donc, qui nous explique qu'on n'a pas bien pris la mesure de notre vote. Alors, évidemment, ils ont parlé de tout, sauf de la Constitution, vous comprenez ? Ah, les Français sont vraiment bêtes. Ah, mais il y a la gauche caviar qui se mobilise avec Jacques Lang. Ah non, mais c'est hallucinant, hein, c'est hallucinant.
Quand je vois ces messieurs de la politique qui demandent à ce qu'on vote non, c'est-à-dire tout ce que je n'apprécie pas chez ces messieurs-là, en l'occurrence monsieur de Villiers, Chevènement, Fabius, Le Pen, je me dis quand même, je ne vais pas voter non pour me retrouver du même côté que ces gens-là. Donc, ça me paraît une excellente raison pour voter oui. Merci, à bientôt.
Oui, bonjour, Pierre des Bouches-du-Rhône. À Marseille, l'adjointe au maire délégué à l'action familiale et droit des femmes inaugure la journée internationale de la femme, devinez par quoi ? Par une expo sur les cuisines et clôture cette journée, vendredi, par l'élection de Miss Marseille. Difficile de sortir du schéma, même pour cette journée pompeusement dénommée Journée internationale de la femme. Faut-il en pleurer ou faut-il en rire ? Au revoir.
Bonsoir, Daniel et toute ton équipe. Écoute, je viens d'écouter l'émission sur le Bénin, la route des esclaves à Ouidam. Et j'ai eu cette chance en mai 2004 d'aller au Bénin dans le cadre d'un voyage solidaire et d'avoir fait cette route des esclaves avec deux classes de CM1 et CM2. Nous sommes partis donc du fort, je crois, portugais à Ouidam et nous sommes allés jusqu'aux portes du non-retour, au bord de la mer. Je peux vous dire qu'on a vécu là des moments de grande émotion avec ces jeunes, avec leurs instituteurs, avec un guide qui expliquait tout ce parcours. Voilà, c'était assez grandiose et je me renvoyais là-bas en écoutant l'émission. Voilà.
Bravo pour l'émission d'hier avec Yehuda Shaoul. C'était vraiment très touchant, ce jeune homme qui a analysé la situation. Et je sais qu'en Israël, effectivement, il y avait déjà eu les réservistes qui avaient refusé de continuer à bombarder, etc. Enfin, des mouvements comme ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et je vous signale qu'il existe une revue qui s'appelle Dialogue, et qui est justement une revue de discussion entre des militants palestiniens et des Israéliens, justement par rapport à toutes ces questions.
Daniel Mermet, j'écoute avec passion vos émissions et j'ai beaucoup aimé vos émissions sur Israël, mais quelque chose m'a dérangé. C'est cette façon que tout le monde a de dire les refuseniques. Alors je tiens à préciser que les refuseniques, au départ, c'était les juifs d'Union soviétique qui demandaient à partir en Israël et à qui, on refusait le visa. J'ai habité 35 ans à Sarcelles et il y a une avenue des refuseniques à Sarcelles. Donc le refusnique, c'est celui qui refuse. Mais il peut refuser plein de choses. Voilà.
Voilà. Eh ben voilà, aujourd'hui, certains qui refusent d'autres choses. Alors, il y a ceux qui refusent, on les a vus, les refuseniques de Tsahal. On va retrouver aujourd'hui ceux qui refusent le désengagement de Gaza et ceux qui n'attendent que ça, qui n'espèrent que ça depuis des années du côté de Gaza, avec Béchir et sa famille qui, depuis le début de cette seconde intifada, ont leur maison occupée par l'armée israélienne, maison prise en otage et famille prise en otage. On va retrouver cette famille qui espère beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le désengagement. Et on va aussi aller du côté israélien, exactement à Jérusalem, exactement au Palais des Congrès, où se tient une grande réunion, un grand meeting de tous ceux qui s'opposent de toute leur force, de tout leur cri, de toute leur prière à ce désengagement. C'est un spectacle extraordinaire que ces milliers d'hommes en chapeau noir, habillés tout en noir, la plupart barbus, éructants, implorant, suppliant, menaçant cette politique donc conduite par le gouvernement israélien d'un désengagement dans les semaines qui viennent maintenant. C'est sur ce contraste-là qu'on va aller aujourd'hui jusqu'à 18h. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oisiveté, mère de tous les vices. Oisiveté, mère de tous les vices. Ce gouvernement de droite nous sert ce dicton presque tous les jours. C'est sûr, 1 million de RMistes, 3 autres millions aux minima sociaux, 3 millions de chômeurs et encore. Parce que les chiffres sont bien trafiqués, ça commence à faire du monde. Alors il faut les diaboliser, les culpabiliser. Bah, ce sont des méchants qui ont... ceux qui ont encore du travail, ce sont des gentils. Tiens, cela me fait penser à un autre dicton, diviser pour mieux régner. Maintenant, je suis un méchant. Et tous les matins, j'essaie de redevenir un gentil. Mais il n'y a pas de travail. Alors, à midi, je renonce, je reste un méchant. Un méchant qui mangerait bien du céleri tout ficelé, avec du persil dans le nez, dans les oreilles, et une pomme de terre dans la bouche. Puis, quand la haine retombe, on se réunit avec d'autres oisifs, et on fait du vélo, de l'escalade. Nos enfants pêchent, on plante des légumes, on ramasse ce que la nature nous offre. En ce moment, c'est les morilles. C'est bon, les morilles. Et les oignons sauvages aussi. Et puis on fait la soupe, car l'oignon fait la soupe. La soupe fait l'union. L'union fait la force. Et si cela est du vice, comment on appelle le bénéfice de 9 milliards qu'a fait Total, qui va chier sur nos côtes, qui ferme le site de Saint-Aubin dans le 04, alors qu'il faudrait juste 9 millions pour les réhabiliter et maintenir 800 emplois directs et près de 1500 indirects, sans compter tous les autres emplois de la communauté. Comment ça s'appelle? Vous le savez, ça s'appelle la cupidité. Et ça, c'est du vice. Et oui, le vrai problème, c'est que nous, les oisifs, on a le temps de penser. On est en train de s'emplir de haine, et ça va finir par un gros gueuleton, comme dans l'œil Astérix. Allez, c'était Laurent du 04. Ciao.
Bonjour, je m'appelle Catherine. Et puis, par rapport à la Constitution européenne, je voulais dire juste un petit mot. Je l'ai lu. Je ne suis pas pour cette Europe-là, ni pour cette Constitution. Et puis, quel plaisir le jour où le gouvernement, ce gouvernement qui nous traite d'imbéciles, de petits, de gens de la rue, eh bien, se verra afficher un nom. Alors, quel plaisir, mais vraiment quel plaisir. Je serai récompensée de mes journées de grève et de mes protestations qui n'ont aucune réponse et aucune oreille attentive. Au revoir, merci Daniel Mermet pour tes émissions.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, au nom de Dieu, gardez Gaza.
Flight number 2, arriving from New York.
أنا عايش في deserted island. I am in a deserted island. أنا ما فيش عندي من المدرسة للبيت. بعد الساعة 5 أنا مسجون ما بقدرش أطلع.
Et moi, je vis dans une désert, quoi. Une île déserte.
Et je ne peux pas contacter les autres parce que de l'école à ma maison, et à partir de 5 heures, je ne peux pas sortir de ma maison. C'est interdit. Même mes soeurs, c'est interdit qu'ils viennent me visiter ici. Je suis isolé. Même des jours, des fêtes religieuses, ils ne peuvent pas me visiter.
Béchir, Khalil Béchir, dans son île déserte, dans son désert, dans sa maison, occupée depuis 4 ans par l'armée israélienne à Gaza, dans Gaza, à la limite d'une, d'une colonie, d'une implantation, mur contre mur, sa maison colle contre le mur d'une maison de colons. Et depuis 4 ans, sa maison est prise en otage par l'armée israélienne. Pas seulement la maison, mais aussi ceux qui sont dedans. Voilà, Béchir, dans sa solitude, dans sa famille, isolé, véritablement isolé. Isolé, ça veut dire il. Et pendant ce temps-là, au même moment, le soir même, quelques heures plus tard, à Jérusalem, se tient au Palais des Congrès, un grand meeting de tous ceux qui s'opposent au désengagement de Gaza et des colonies, de quelques colonies au nord de la Cisjordanie. Sharon débordée sur sa droite, point d'interrogation, une majorité d'Israéliens est largement favorable au plan de retrait de la bande de Gaza. Engagé par le Premier ministre Ariel Sharon et une partie de son gouvernement. Et pourtant, et justement à cause de cela, eh bien tous ceux qui se font une certaine idée d'Israël, c'est-à-dire une idée religieuse, une idée mystique, une idée extrême, une idée ultranationaliste, se réunissent ce soir-là au Palais des Congrès à Jérusalem. C'est avec eux qu'on commence cette heure de la basse vision.
Là, c'est un tract qu'on nous distribue. Tu peux traduire ?
C'est la colline Yitzhar, une des plus disputées dans les territoires illégales, qui a été évacuée plusieurs fois. Et ils disent, c'est le moment maintenant, plus que jamais, de venir vous installer ici et aussi de faire une contribution aux familles qui ont été obligées de quitter leur maison là-bas.
C'est les colonies sauvages, ce qu'on appelle.
Voilà, des colonies sauvages. La plus sauvage des colonies même.
On arrive dans le hall du Palais des Congrès à Jérusalem et on nous tend effectivement des tracts de ces colonies, de ces colons radicaux, illégaux aussi, mais pour qui il s'agit d'une mission mystique, religieuse que la leur, puisque il s'agit d'une terre qui a été donnée par Dieu et qui évidemment ne peut pas être reprise par quelques moyens politiques que ce soit. Ça nous donne une ambiance de la soirée à laquelle nous allons assister avec notre ami Jacob, qui est notre traducteur. Et dans le hall, effectivement, on voit assez vite, alors d'abord tous ces hommes en noir, chapeau noir, manteau noir, barbe plus ou moins grisonnante, de temps à autre, mais rarement, il faut bien le dire, ces fameuses étoiles oranges que les colons, que les extrémistes ont arboré après la déclaration, après que ce projet de retrait de Gaza ait été connu. Certains ont arboré une étoile jaune en disant, voilà, on va être déporté, avec la couleur orange, en évocation, bien sûr, de manifestations en Ukraine, à Kiev. Mais protestations et grands hauts cris ont fait que ces étoiles ont peu à peu disparu, mais quelques-uns les arborent dans le hall, où un petit peu comme dans ces meetings qu'on pouvait voir à la Mutualité au début des années 70, où chaque groupuscule gauchiste prétendait changer le monde en présentant des tracts, des bouquins et des ouvrages divers et variés. Et ben, c'est un petit peu l'ambiance qu'on a dans le hall. Et puis, on avance comme ça dans la grande salle où la foule se presse pour écouter les orateurs.
Ce soir ici, en fait, c'est une grande manifestation, en fait, de cris, en fait, de adieu à Kadosh Baruch Hu. Pour ce qui se passe en Israël, pour la situation qui se passe en Israël, parce que tout est assez mélangé, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées aujourd'hui en Israël. Et donc on est venu ici pour demander vraiment à Kadosh Baruch Hu qu'il ouvre les portes le plus facilement possible et qu'il puisse nous aider de trouver les solutions les meilleures, sans qu'il y ait de sang qui coule ni d'un côté ni de l'autre.
C'est-à-dire contre le désengagement à Gaza.
Complètement. Parce que on a vécu la Shoah il y a 50 ans et on peut pas recommencer ici en Israël chez nous.
La Shoah.
Voilà la récupération de la Shoah. Ici, on n'y va pas de main morte pour instrumentaliser, pour récupérer, pour faire des rapprochements qu'ailleurs on trouverait tout à fait scandaleux. C'est Guedalia, il s'appelle ce monsieur, et il est francophone, comme vous pouvez le constater. Nombreux francophones dans cette salle ce soir-là, et il nous donne son point de vue.
Vous venez du Gouche Katif ?
Non, moi je viens pas du Gouche Katif, moi je viens de Beth Shemesh. Mais la situation est assez grave en Israël parce que le monde entier sait que de toutes les manières la terre d'Israël appartient au peuple juif. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est au courant de ça. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, tout le problème, c'est que malheureusement, tous ceux qui président ici en Israël, eux, ils le savent pas. Ils le savent pas. C'est ça la rigolade dans l'histoire. Vous allez demain aux États-Unis, vous allez à New York, vous allez partout aux États-Unis. Chaque personne là-bas, chaque Américain non juif. La première des choses qu'il va vous dire, va dire In God We Trust. C'est-à-dire, c'est un peuple, c'est pour ça qu'ils ont énormément de bénédictions. Pourquoi ils ont bénédictions? Parce que la première des choses, d'abord, ils mettent Dieu d'abord en premier. Et nous, en Israël, le grand problème, c'est que ça se passe pas. Et tant que, malheureusement, la situation ne changera pas, c'est-à-dire à ce niveau-là, tant que les gens ne prendront pas conscience que c'est pas nous qui décidons des choses. Mais ici, ça a été écrit il y a déjà plus de 3000 ans. L'interdit d'Israël, à partir de maintenant, ça n'interdit pas les autres de venir vivre ici. C'est pas pour autant que tu vas exclure des personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre ici. Il faut leur donner la possibilité de partir sans aucun problème. Il faut les aider à partir. Ici, la solution, elle est simple. On n'a jamais vu un pays binational. Ça n'existe pas un pays binational. À partir du moment où tu décides de vivre en Israël, il y a des lois. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Un pays qui gagne une guerre, il gagne le terrain.
Mais ça, ce que vous dites là, c'est pas d'État palestinien.
Mais c'est évident. Celui qui est mort il y a quelques mois maintenant, hein, il est né en Égypte. Qu'est-ce qu'il a à faire avec Israël?
Ah, vous parlez d'Arafat, là?
Oui. Lui, il est né en Égypte. Je vois pas qu'il est le président d'un État palestinien, égyptien. Mais surtout, la chose principale, c'est de pas tout confondre. Ouais. De toutes les manières, la paix comme on l'entend, elle est pas possible. La paix comme on l'entend, elle est pas possible. Pourquoi? C'est simple. Au Moyen-Orient, c'est pas l'Europe. Je veux dire, quand l'Allemagne et la France, ils ont fait la paix, il aura fallu qu'ils arrivent à trouver un compromis. Le Moyen-Orient, c'est l'Arabie, c'est les Arabes, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de penser, c'est un autre monde. On parle dans un autre monde tout à fait. Alors, maintenant, il y a du travail à faire. Il y a des gens de bonne volonté de tous les côtés. Ceux qui sont pas de bonne volonté, je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont rien à faire ici. Il faut les reconduire. Il faut les reconduire chez eux. Vous pouvez appeler ça le transfert, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Tu peux pas accepter quelqu'un chez toi qui veut venir te tuer. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Maintenant, il veut habiter ici, il veut travailler ici. Pourquoi pas?
Avec tous les droits de bras, il veut le droit de vote. Avec...
Droit de vote, je sais pas. Qu'est-ce que lui s'en fout? Lui, il vient ici pour travailler. Encore une fois, au Moyen-Orient, il n'y a pas d'État libre, il n'y a pas d'État démocratique. Que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, que ce soit, il y a aucun, la Syrie, le Liban.
Donc ça veut dire des gens qui pourraient résider en Israël, travailler en Israël, mais pas voter.
Voilà. Des résidents. Moi, je suis pas contre le fait qu'ils viennent travailler ici. Pourquoi pas? Ça peut amener beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, on sait bien que le deuxième temple, il a été construit en partie par des gens qui venaient d'ailleurs de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Le deuxième temple, il a été construit
depuis
par...
Depuis combien de temps vous êtes ici?
Depuis 1994.
Et vous venez d'où?
Je viens de Paris.
Ah, vous avez fait l'Aliyah en 1994?
J'ai fait l'Aliyah en 1994.
Ah, mais c'est récent!
C'est assez récent. Il y a beaucoup de choses. C'est un grand bouleversement. Ça a été un grand bouleversement. C'est beaucoup de...
Qu'est-ce que vous faisiez à Paris?
Moi, j'ai fait une école hôtelière. J'ai fait une école hôtelière en France, en Bretagne, à Paimpol. Ah ouais. Je me suis retrouvé à Paimpol, en Bretagne.
Et un beau jour, hop,
Et un beau jour, j'ai pris le billet, je suis venu. En fait, il y a un moment donné où on se dit que on a aussi des choses à faire et qu'il faut savoir prendre son courage à demain et le faire. Ici, c'est beaucoup plus difficile que partout ailleurs, grâce à Dieu. Mais il n'y a aucun regret parce qu'on sait qu'on est dans le vrai et que si Dieu veut, le Messie va venir. Donc on l'attend jour après jour, un match avec une grande impatience. Et on souhaite à tout le monde vraiment qu'il arrive pour tout le monde, mais non pas que pour le peuple juif, mais pour tout le monde dans le monde, parce que le Messie ne vient pas que pour le peuple juif, mais il vient pour le monde entier. Et c'est ça le message primordial, c'est qu'il faut que chacun pense à la construction, parce que quand il va venir, ça sera terminé, on pourra plus faire d'erreur.
Michel, attention là. Appel
Impressionnante cette salle du Palais des Congrès de Jérusalem, immense salle du Palais des Congrès, entièrement peuplée d'hommes en noir. Avec des chapeaux noirs, des barbes la plupart du temps, même presque toujours des barbes, et qui assistent à cette réunion. S'il y a quelque chose, on surutilise le mot surréaliste, mais là, on est vraiment dans un spectacle tout à fait surréaliste pour ceux qui n'ont jamais assisté à la réunion, ce genre de congrès des Lubavitch, qui est une branche du judaïsme bien connue, et Il y a aussi des mouvements de colons radicaux et d'autres mouvements aussi radicaux, religieux, ultrasionistes qui assistent ce soir-là à ce grand meeting contre Sharon, contre le désengagement de la bande de Gaza et de tout désengagement évidemment possible et à venir.
Non, ce n'est pas une réunion politique. Vous voyez bien que ce sont justement des personnes religieuses qui sont pour la plupart ici. C'est pas du tout une réunion politique, ça n'a pas du tout de connotation politique. C'est simplement pour défendre une certaine morale qui va être bafouée lorsqu'on va voir des gens innocents chassés de leur terre uniquement parce qu'ils sont de race juive pour donner leur terre à des terroristes qui certainement... N'ont pas le droit même d'être appelé être humain. Après,
ah bon
oui, je pense que quelqu'un qui a un petit peu de bon sens et un petit peu encore le sens de la morale, lorsqu'il voit des gens qui sont prêts à mourir pour tuer des enfants, des femmes, des innocents, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça des êtres humains. Je parle des terroristes du Hamas qui vont prendre possession de ces terres et de ces maisons, de ces territoires, pour pouvoir propager leur terrorisme, pour pouvoir créer des camps d'entraînement, quand on sait que pour ça, des juifs, peu importe qu'ils soient juifs ou qu'ils soient d'une autre religion, si ça avait été des noirs ou si ça avait été une autre ethnie, c'est la même chose. Le transfert de populations ethniques, chasser des populations parce qu'ils appartiennent à une certaine race, et en l'occurrence ce sont des juifs, pour donner ces territoires à des gens du Hamas, c'est quelque chose qui est insupportable à la morale. Et c'est pas du tout une réunion politique, c'est une réunion qui part sur deux points. Le premier point, c'est la morale, et le deuxième, c'est la sauvegarde de la vie de l'État d'Israël.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Dis-moi ce qu'il y a écrit sur les grandes affiches là derrière.
Bienvenue à cette réunion. Le rabbin de Lubavitch, le roi Messie, s'oppose au retrait, à la restitution de Gaza et le transfert de territoire de Eretz Israël à nos ennemis. Un pays palestinien sera un pays du cancer, un pays de la mort et de la terreur.
ומתקש, קש, שמיד נזכה, נתקה בשופר גדול לחלוטינו.
Déchirer les habits selon le judaïsme, c'est un signe de deuil. Et il a dit que ce jour-là, c'est la catastrophe et la grande deuil pour Israël. Et c'est pour ça qu'il veut déchirer ses habits devant tout le monde.
Et là, il est avec des ciseaux en train de ferrailler avec ses vêtements, son grand manteau noir qu'il est en train de taillader.
Il demande à tout le monde, à tout le public, de se mettre à genoux en signe de prière pour empêcher le plan qui est en train de se mettre en place.
C'est impressionnant, là, parce qu'effectivement, dans ce palais des congrès, tout le monde s'est mis à genoux, y compris ceux qui sont assis, là. Donc on voit plus que les chapeaux qui dépassent des travées. C'est très, très spectaculaire, quoi.
C'est une ambiance de deuil et de prière. Le grand deuil, mais très symbolique. Ils ont choisi tous les symboles des textes saints qui reflètent le deuil et la douleur. Ils demandent à tout le monde ici dans la salle de se mettre debout et de prononcer la prière la plus importante. L'appel à Dieu. C'est le grand rabbin de Kiryat Arba, du côté Hébron, qui déplore la destruction des colonies, le plan du gouvernement, et espère que l'ambiance et l'esprit de cette réunion ce soir pourra influer sur les décisions du chef du gouvernement. Vous êtes là les pionniers, vous devriez servir l'inspiration pour le gouvernement. C'est lui qui a des racines fortes dans la foi, il n'a pas peur des menaces du quotidien. La force et encore la force, nous n'aurons jamais peur d'aller dans tous les endroits, dans tous les coins de notre pays. C'est le rabbin Yosef Mendelevitch, un ancien refusnik en Union soviétique. Avec lui, ils vont distribuer des diplômes. En fait, c'est tout un groupe de gens qui refusent de participer à l'évacuation de Gaza. En général, il s'agit de militaires réservistes. Au nom du peuple d'Israël, c'est un diplôme de mérite pour leur courage de refuser.
Tout le monde est debout en train d'applaudir. Et c'est des jeunes soldats, hein, réservistes, qui ont déclaré ne pas vouloir participer au démantèlement de la colonie de Gaza.
Et voilà, vous avez des centaines de participants à ce meeting qui se mettent à danser et à chanter joyeusement, chapeau noir, veste et manteau noir, chemise blanche. Il n'y a pas une femme dans l'assemblée, même les journalistes femmes étrangères ne sont pas acceptées dans la salle. Les femmes sont en haut, au balcon, dans l'étage supérieur de la salle, mais aucune n'est admise dans la partie inférieure où on chante et où l'on danse.
Là, pendant que la musique est à fond, tous ces religieux en barbe, chapeau et costume noir sont en train de faire la queue leu-leu. Ils font la chenille. dans ce palais des congrès blindé de monde. Les hommes sont tous en bas, tous en noir et tous en train de faire la chenille en dansant sur la musique, alors que les femmes sont à l'étage du dessus, beaucoup plus tranquilles.
Voilà, Boaz Haetzni, un officier à l'armée, à l'office de Haetzni, un des chefs de Hebron. Au mois de mars, l'armée va achever les préparatifs pour le retrait. Lui, Haetzni, il a été convoqué à servir en réserve dans cette période. Et il a annoncé dans sa lettre au commandant, au chef de l'armée, qu'il refuse de participer au service militaire en ce but-là.
La terre sainte a été donnée au peuple juif. Vous pouvez vérifier ceci dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et puis ça fait 2000 ans que le peuple juif a été obligé de quitter la terre sainte en raison, bien sûr, de la guerre que Titus avait faite il y a à peu près 2000 ans de ça. Et le peuple juif s'est éparpillé, s'était dispersé à travers le monde. Alors, le fait que le gouvernement israélien va donner aux Arabes une partie de la Terre Sainte, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers en 1292, il me semble. Je ne me rappelle pas de la date. Mais Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Maintenant, la France a été conquérie par les Arabes. Au bout de 20 ans, c'est fou.
Et voilà, maintenant tout le monde recommence à danser dans les travées du Palais des Congrès avec un grand sourire et en sautillant. Alors là, on se fait bousculer. Ah,
אני שניאור פרידמן, אני שליח עולמי של הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליטה. הרבי שליטה מלך המשיח אומר שאסור לוותר על משרד שטחים.
שניאור פרידמן מספאד, 7e génération dans le pays, un des envoyés du grand rabbin לובביץ'.
הרבי שליטה מלך המשיח עולם ועת אמר לו ששרון הוא טוב בצבא, אבל להיות ראש ממשלה אסור לו להיות ראש ממשלה.
Notre grand rabbin a toujours dit que Sharon c'est un bon chef d'armée, mais pas un bon politique.
אני שבע דורות בחב"ד, סבא שלי זה מגדולי החסידים ברכי חן, ואנחנו אומרים לשרון לא לוותר על משרד שטחים.
Nous, les fidèles du rabbin Lubavitch, on aime bien Sharon, mais on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de faire. On lui dit, on aime tout juif, mais pas ce que tu fais là. Rentre chez toi, convertis-toi.
Que Sharon aille se convertir.
Nous, on espère que Ariel Sharon va revenir à la tchouva et aller à la maison. וחסידי חב"ד יבואו לבקר אותו בחווה שלו, להניח לו תפילין, כמו שאנחנו הולכים לשווקים ומניחים בדין תפילין, ככה גם להניח לאריק שרון ואסור לו להיות ראש ממשלה. הרבי אמר לו,
Bien sûr qu'il rentre chez lui, qu'il se convertisse au judaïsme, nous serons prêts à venir lui rendre visite, comme on fait dans les marchés, dans les endroits publics.
והדבר, אני אסיים בהכרזה הקדושה.
Et la plus grande prière et déclaration que nous avons, nous, vive le grand rabbin, le roi Messie.
circuler. Ah.
Tu vois le mirador là israélien, c'est juste en face, on est à 100 mètres là. On est à 100 mètres, aujourd'hui avec la trêve on peut avancer avec la voiture, autrefois on ne peut pas marcher. Et la maison de Bachir, à gauche c'est la colonie de Kfarda. Hein.
Et on voit là, il y a des, un peu encore des maisons arrosées d'impact de
balles,
des maisons entassées les unes sur les autres.
Ouais. Si vous voulez, on doit descendre pour pouvoir avancer, pour voir la maison, parce qu'on ne peut pas avancer encore avec la voiture. Regarde la discussion, ici c'est des arbres, et c'est sa maison. Regarde, elle a été occupée par les soldats israéliens au premier et deuxième étage. Voilà ce qu'ils ont laissé derrière eux.
Le camouflage.
Oui, le camouflage et le machin. Ils ont pris sa maison comme un mirador de contrôle.
Voilà, on a fait un saut entre du jour au lendemain, on peut dire, hein, entre cette soirée folle au Palais des Congrès, avec, enfin folle à nos yeux, avec ces extrémistes partisans du grand Israël, et puis, eh ben, on est à Gaza maintenant, du côté donc palestinien. J'espère que c'est pas trop provocant de dire une chose pareille. Et on est devant la maison de Béchir, Khalil Béchir. Et cette maison est particulière en ceci qu'elle a été, dès le début de cette seconde intifada, je disais tout à l'heure, prise en otage par l'armée israélienne. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que sa proximité, comme d'autres maisons, il y a d'autres maisons qui ont été choisies aussi comme ça, à cause de leur proximité avec des implantations, avec des colonies. Et bien sûr, ces maisons palestiniennes collées à des colonies font que les colonies ne cessent d'être des cibles pour la résistance palestinienne. Évidemment que les Palestiniens ne vont pas tirer sur ces colonies puisqu'il y a des maisons palestiniennes très proches. Imbriqué. Ça donne une idée aussi de l'imbrication. Hein. L'imbrication, encore une fois, toujours penser à l'exiguïté de ces territoires et à l'imbrication des uns dans les autres avec tout un tas de stratégies pour s'ignorer, pour être chacun enfermé dans son autisme. C'est le titre d'ailleurs du bouquin de Sylvain Sipel, Les Emmurés. Ben, là, c'est vraiment ça. Sauf que dans le cas de Béchir et sa famille, ils ont été assignés à résidence dans leur propre maison depuis bientôt 5 ans, 4 ans et demi, et astreints à vivre au premier étage de leur maison, le second étage et le troisième étage étant réservés à l'armée qui a installé là tout un matériel de surveillance, des systèmes électroniques pour surveiller la zone, et en considérant que la maison était occupée. Et à tout moment du jour et de la nuit, au moins un membre de la famille doit être présent dans la maison, les allées et venues pour sortir de du sorte de jardin qui est autour, évidemment étant délivré par les militaires. Et au moment où nous arrivons, ben, la perspective de ce désengagement fait que les choses sont en train de changer.
La colonie, elle est juste là derrière.
Elle est juste derrière là. Même le soldat israélien est en train de le voir. Hein. Aujourd'hui, c'est grâce à cette trêve qu'on a pu venir jusqu'ici. Mais pendant 3 ans, personne ne pouvait mettre les pieds ici.
Donc là, il y a un mirador. Les militaires surveillent et nous voient très probablement. C'est même évident.
Bien hein. sûr, ils nous voient à 800 mètres.
Ils laissent faire là parce que c'est la trêve. Et effectivement, là, on voit une maison avec un toit rouge. Et c'est la maison d'un colon, quoi. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît les maisons des colons.
Voilà.
C'est qu'elles ont des toits rouges. Et lui, ici, là, c'est une enclave. La maison devant laquelle on est, c'est la maison de Béchir.
Les maisons de Béchir, ça va être à votre aujourd'hui.
Il y a une jeune fille qui vient nous voir.
Son père, c'est lui, Bachir, et il est en travail, il va sortir de son travail à 1h. Mm-hmm. Et là, sa mère, elle est ici uniquement. Et nous, qu'est-ce que ça veut dire, Wahdi, Joussa, la Hadith, Enko? Ou est-ce que nous, on a foutu tout
là,
Maintenant? Je viens de lui dire, c'est depuis quand c'est autorisé à nous de venir jusqu'ici? Il me dit, en principe, c'est interdit. Vous êtes les premiers. Vous devez demander autorisation auprès d'eux. Je ne sais pas comment vous êtes jusqu'ici. Et j'aimerais bien que vous sortiez tout de suite.
Ah, parce que vous êtes inquiète, ça vous inquiète?
Disait oui, s'il y a un peur et il y aura un problème avec nous. Je vais demander à ma mère. Elle va vous expliquer.
C'est la dame qui arrive.
كان لسه قبل اسبوع مسكر هذا بتلال رمل فتحوها وقالوا اذا حد بمرق حنرجع نسكرها
il disait il y a même pas une semaine qu'il y avait ici des barricades de sable et de terre, c'était fermé. Ils l'ont ouvert, ils l'ont dit si personne va rentrer ici, on va la refermer encore. Donc c'est interdit que vous restiez ici.
Ah, si quelqu'un entre, il referme la barrière. Donc là on est en train de les mettre en risque.
Oui. Ah, elle disait c'est difficile, il faut pas
rester. I am afraid maybe the soldier come now.
J'ai peur que les soldats viennent.
OK, OK, OK.
لا ولا تخاف حقكم هو مش انتخوا ابني في يوسف في ظهره في العمود الفقري.
Son travail à l'école.
زي الحين السنة اللي فاتت زي الحين طخوا في ظهره. الشظية في العصب.
ليش؟
والأمم المتحدة واقفة عند العمود هذاك وابني بعمل لهم هيك.
Je viens de lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer s'ils vont venir, ils vont nous trouver ici. Ils vont constater qu'on est des journalistes. Mais l'année passée, dans la même période, mon fils était en train de saluer les Nations Unies. Une délégation des Nations Unies était ici. Les Israéliens, devant leurs yeux, ils ont tiré sur mon fils, ils ont touché son colon vertébral avec une balle. Donc, c'est rien n'est garanti. Il va informer qu'à partir de maintenant, ils ont enlevé ces barricades. C'est interdit que personne ne va rentrer chez vous. Donc, ils m'ont dit que si une fois on va constater quelqu'un qui est venu ici, je suis sûr qu'ils vont venir maintenant les soldats. Il nous a dit qu'on va faire le tour de votre maison, une série des montagnes de terre.
C'est invraisemblable de réaliser ce que cette famille a vécu pendant toutes ces années sous la surveillance permanente, avec un œil, les surveillant chacun de leurs gestes à tout moment. Pourquoi ont-ils tenu? Ils nous le diront très soigneusement demain. Ils nous diront pourquoi ils ont tenu. Pourquoi ils auraient dû partir, bien sûr. Tout est fait pour les faire partir. Et ils ont tenu, ils diront pourquoi. Mais pour l'instant, c'est un spectacle extraordinaire que de voir à notre gauche, quand on regarde la maison, ce mirador. On voit pas, évidemment, les militaires qui sont à l'intérieur, mais on les devine. On devine qu'on est scruté, qu'on est regardé, qu'on est en joue. Très probablement, et c'est le cas aussi dans la maison même, dans les étages, au premier et deuxième étage de la maison, il y a également une présence militaire. Et nous entrons là avec une hésitation. Est-ce qu'on fait prendre des risques à cette famille? Est-ce que on les met en danger? Est-ce que la menace de les entourer à nouveau, de les enfermer à nouveau dans un mur de terre sera appliquée ou non? Personne ne peut le savoir, à commencer par eux-mêmes, mais leur situation est tout à fait invraisemblable. Et c'est le cas d'une dizaine d'autres maisons semblables sur cette ligne donc de friction, on peut dire, de front entre ces colonies et la partie le reste de Gaza. Il faut rappeler qu'ils sont 7500 colons encore dans Gaza, donc c'est eux qui sont qui sont concernés par le retrait. 7500 pour 1 300 000 palestiniens dans la partie Gaza. C'est un déséquilibre évidemment particulièrement monstrueux et qui risque de basculer dans les semaines qui viennent. Personne ne sait actuellement comment les choses vont se passer. Est-ce que les colons et leur soutien se plieront? Est-ce qu'on... Tout est possible actuellement, y compris le pire. Mais là, on peut parler, là, maintenant, ici?
Ah, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter une seconde?
اسمي سعاد بشير، مرت خيل بشير، مدير مدرسة بالكا.
Moi, je m'appelle Souad Bachir, la femme de Khalil Bachir, le directeur de l'école Valta.
Donc, vous avez résisté depuis octobre 2000. Hein, ça va bientôt faire 5 ans que vous résistez, toute la famille. C'est une résistance passive, c'est un cas de résistance passive. La colonie est juste à côté ici. Vous avez eu des attaques sur la maison pendant toutes ces années ?
Oui, j'ai à l'intérieur une machine pleine de balles et des éclats d'obus et des éclats de
missiles.
Et l'armée, quand il vient, il parle avec Khalil, mon mari, il disait, Rigo, tu veux mourir dans ta maison là, tu veux pas sortir.
Comme ça par le bras.
Ils ont passé beaucoup de nuits avec nous. Une fois, ils avaient froid, ils ont venu dans la même chambre où ma fille elle dort. Ils ont enlevé la couverture, ils l'ont pris pour eux, ils ont laissé ma fille sans couverture. Jusqu'à maintenant, les couvertures sont au premier étage, deuxième étage. On a demandé qu'ils nous le redonnent, ils ne veulent pas.
تحملنا حاجات كتير يعني ما بتنوصفش يعني أنا يعني بفكر لما تنتهي الانتفاضة من كتر ما في قصص شفتها من الجيش أعمل كتاب.
Je dois pas sortir de ma maison parce que si on sort ils vont la détruire, on va perdre notre maison. Et tellement que j'ai assisté à plusieurs scènes que je peux pas les oublier, je pense qu'une fois que l'intifada sera arrêtée, je vais écrire un livre.
Qu'est-ce qui vous a décidé à rester là?
لانه ما حبيناش نعيد غلطه التعاون 48 لو بدنا نطلع حيروح البيت وحغيرنا حيطلع وهكذا
on voulait pas refaire la même erreur de 48 si une fois on sort de notre maison l'histoire sera elle va revenir
l'histoire va se répéter
donc c'est un acte de résistance vous êtes resté là par esprit de résistance dans votre maison avec les enfants avec toute la famille restée dans la maison
اه صح وبعدين انا حبيت اثبت للجيش انه ممكن يعني انه احنا نعيش وفي جنب الجيش يعني نثبت لهم انه احنا ناس مش ارهابيين زي ما هم بتصوروا يعني كان اذا بتتحرك جنب الشباك تتحرك هتروح على الحمام بخاف منك الجيش
je voulais prouver aux armées israéliennes que on pouvait vivre juste à côté d'eux et de leur prouver qu'on n'est pas des terroristes يعني... malgré que c'était difficile très dangereux même de circuler à l'intérieur de la maison pour y aller à la toilette même
dans la maison, donc on voit où il y a des...
Regarde, alors on dirait vraiment une carte postale, t'as un pigeon blanc, une colombe de la paix
qui est posée sur les treillis et sur les barbelés qui sont sur le toit de leur maison, le poste avancé de l'armée israélienne.
C'est extraordinaire, c'est une image. Regarde ça. Mais là, on voit des colombes. C'est volontaire, les colombes, c'est vous qui les élevez ?
Ah, il est هذا كان عندنا حمام مجرف والبرج تاعه فضل مش راضي يهجر البيت فضل عصب
اي سي موا كي زايلفي مي ايزون تو ديتروي رازي لا و جي لي زيلات دونك ايل فولي با كيتي لوتر ميزون اي ريست سي لي
في حمام تمشي هيك في اجتها رصاصه برجلها في حمام اجتها
جي اون ان بيجون كي توشي بار اون بال اي دونك ايل بوات
اي مي فو لافي سوانيي
ظلت عايشه الحمام ما بيهجرش مكانه بضل
Elle est restée vivante et, comme vous le savez, le pigeon jamais quittera sa place.
Dans cela, on voit en ombre chinoise des patrouilles, là, des gens qui passent sur les guérites en face. Et là, la dame est très inquiète. Elle n'arrête pas de tourner à droite et à gauche.
Ok, bon, on vous remercie, puis on va aller voir Béchir là-bas.
Oui, mais madame, c'est où il
Demain, on trouvera le pigeon qui boite. Merci à Khalil Bachir, à sa femme Swat Bachir, à Shlomo, à Gedalia, à nos traducteurs Jacob Aizer, Raja Bouvega et Eva Lalonde. Merci aussi à Isabelle Dor et à Abraham Segal. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis. Technique aujourd'hui Antoine Viossa, Michel Thomas et Jessica Fouché. L'équipe de La Basse J'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello, Raphaël Moutert pour le montage. C'est
le reporter, c'était Guy Ventil. Le répondeur, c'est Christophe Humbert. Le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour la basse J'y suis. 1 minute 13 secondes de pub. Et après, Charivari avec Frédéric Bonneau. Salut!